Bon, ce qui est génial avec le Seigneur, c'est que en général, il fait le message avant. Donc ça, c'est bien. Marie-Laure a fait mon point 2. Je n'aurai pas besoin de le faire. Enfin, plutôt, ça va être une redite. Aline, elle a fait mon point 3. Et mon point 1 a été fait tout le long, donc c'est bon. Donc, on va lire le psaume 71, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Ah, pas tous, vous ne pourrez pas. Quelqu'un veut le lire? Au micro? Ah, Marie-Laure.
Je te l'amène. Ça m'économise un peu ma voix.
Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'il soit confus. » Anéantis ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte, et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu. Qui est semblable à toi ? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus.
Merci beaucoup, Marie-Laure. Amen. On va commencer par prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci, parce qu'on peut s'y pencher, parce qu'on peut la méditer, parce qu'elle est la nourriture dont nous avons besoin, Seigneur. Et nous te prions ce matin, aide-nous à manger ta parole, Seigneur, et à faire qu'elle produise un fruit dans nos vies, Seigneur, qui soit digne de louange et de gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors, le psaume est un petit peu long. Forcément, je ne vais pas développer verset par verset. Et on va prendre quelques idées essentielles qui sont présentes dans le psaume. Hop. Alors, d'après la plupart des commentateurs, ce psaume est très largement attribué à David, même si ce n'est pas précisé. Et ce texte est un texte riche d'enseignements sur la vie et surtout sur le regard, la vision que l'on peut porter aux circonstances. Et comme ça a été prié ce matin, il donne un cap. Il donne le cap à ne jamais abandonner. Et le cap, c'est louer l'Éternel et placer sa confiance en lui. Ça, c'est le cap de nos vies. Toujours louer notre Seigneur et faire reposer en lui notre confiance. David, lui, a eu une vie riche en bénédictions. Ceux qui ont lu son histoire savent qu'il est passé d'une situation où il était un petit berger qui allait dans les montagnes avec un petit troupeau. Et Dieu a fait de lui le roi de la nation d'Israël. Waouh! Waouh! Il y a eu un chamboulement total. Et alors qu'il a vécu de nombreuses bénédictions, sa vie, elle est aussi à la fois riche en épreuves. Le péché, la mort, les complots, les guerres, les conflits familiaux, les trahisons, et encore et encore et encore, tant de choses difficiles par lesquelles il a dû passer au travers. Et c'était au travers de cette vie très mouvementée, remplie d'émotions diverses et de chamboulements forts émotionnels et nombreux. Quand votre propre fils veut atteindre à votre vie, je pense qu'on doit... Qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous à sa place 2 minutes. Je pense qu'on doit être perdu à certains moments. Mais malgré tout cela, quand il écrit ce texte, il conclut par « Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. » Waouh ! « Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, quoi qu'il se passe. » On peut revenir au début, la première slide, s'il vous plaît. On va reprendre les versets 1 à 5a. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi, délivre-moi, secours-moi. Tu es un rocher, tu me sers d'asile. Tu as résolu de me sauver. Mon rocher, ma forteresse, délivre-moi de la main du méchant, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Dans cette première partie du psaume, David nous parle de ce Dieu qui sauve. Dieu est le Dieu qui sauve. Et je dirais même qu'il insiste. Vous avez vu toutes les interpellations, tous les mots qu'il va utiliser dans un court paragraphe. Sauve-moi, délivre-moi, secours-moi, sois pour moi un asile. David avait bien compris que si quelqu'un pouvait venir à son secours, ben c'était bien Dieu. Il nous montre en qui nous devons placer notre confiance et notre espérance. Dieu est un asile, un rocher, une forteresse. Autant de choses sur lesquelles nous pouvons nous sentir en sécurité. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Le monde, lui, nous propose tout un tas d'autres choses dans lesquelles placer notre confiance. La richesse, le pouvoir, la science, une idéologie, nos propres forces. Et le grand roi David aurait pu se reposer sur son armée, sur ses richesses, ou même sur sa propre force. N'oublions pas qu'il a tué un lion et qu'il a tué Goliath. C'était quelqu'un de fort. Mais il choisit de crier à l'Éternel. Il choisit de placer sa confiance en celui qui peut tout et qui a décidé de le soutenir. Au verset 3, on lit, tu as résolu de me sauver. Waouh ! Il doute pas, David. Tu as résolu de me sauver. Et ce matin, je voudrais nous encourager à faire de même. Confions-nous en Dieu pour nos vies. Peu importe les difficultés que la vie ici-bas nous impose, venons vers Dieu. Et parfois, avec insistance, soyons toujours confiants qu'il a résolu, c'est lui qui a résolu de me sauver. Parfois, j'entends dire de la bouche de certains chrétiens, prie une seule fois, attention, sinon tu vas ça s'appelle le manque de foi. Ben David, il nous dit le contraire. Il nous dit, insiste, supplie, insiste, encore, encore, encore. Ça n'est pas un manque de foi. Viens importuner Dieu avec tes cris, tes peines, tes angoisses. Pourquoi ? Parce que cela démontre que tu viens chercher ton secours en lui, que tu dépends de lui, de ses agissements à lui. Et je dirais même, plus tu viens demander secours à Dieu, plus tu prouves que tu dépends de lui. Et donc, plus tu es humble. Amen. Plus nous venons crier, insister, plus nous prouvons par nos actes notre humilité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Car tu ne t'appuies pas sur tes forces. Et vous savez quoi ? Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Dieu fait grâce aux humbles, à ceux qui viennent vers lui et qui lui disent « Seigneur, secours-moi ». Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton salut, Seigneur, qui est toujours agissant. Merci parce que c'est toi, dans ton propre conseil, Seigneur, qui as résolu de me sauver. Ça ne dépend pas de mes actes, Seigneur. Et je peux venir vers toi humblement, jour après jour, des millions de fois par jour, te demander secours, Seigneur. Amen. Amen. On continue. Deuxième. Donc, premier point, Dieu vient me sauver. Deuxième point, Dieu est toujours à mes côtés. Et là, on va redire ce que Marie-Laure a déjà lu. En toi, je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère. Waouh! Il s'est emporté, David, là. Il y a des mamans, là, qui ont des bébés. Dès le ventre de ma mère, il se confiait en Dieu. Je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Verset 8. Que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, car mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Verset 12. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. David poursuit son texte en nous rappelant que Dieu est toujours, toujours à nos côtés. Dès le ventre de ma mère, il est là et je peux même m'appuyer sur lui. Waouh ! Au verset 6, on voit même David qui décrit Dieu comme une sage-femme. Est-ce que ça vous serait venu à l'esprit de faire ça ? David décrit Dieu comme une sage-femme. Tu m'as accueilli au moment où je suis sorti du ventre de ma mère, du sein maternel. Waouh ! Bon, excusez-moi, ça me touche parce que je suis papa récent. Mais waouh ! Quelle image David a de Dieu ! Comment on peut douter que Dieu est avec nous ? Il ne nous abandonne pas, jamais. Jamais, quelle belle image. Si vous retenez une image ce matin, retenez celle-là. Dieu vous a accueilli au moment où vous êtes sorti du ventre de votre mère. Et David nous dit qu'il nous accompagnera toute la vie jusqu'au temps de la vieillesse. Que je sois fort ou faible, Dieu est à mes côtés et il est en tout temps, et en tout temps, pardon, je peux m'appuyer sur lui. Parfois, et c'est vrai, nous rencontrons des situations où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. À qui c'est jamais arrivé ça ? Parfois, on a cette impression-là. Certaines épreuves sont si difficiles à faire face qu'on a du mal à voir où se trouve le soutien de notre Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai perdu ma première épouse il y a quelques années. Elle s'appelait Astrid. C'est la maman de mon grand garçon, Ethan, pour ceux qui l'ont vu circuler. Et quand ça s'est produit, j'étais, je dirais, complètement sonné par la douleur. J'étais sonné, abasourdi. J'avais tellement mal à l'intérieur de moi que mon corps, même mon corps physique, s'est mis à me faire mal de douleur. Et donc j'ai eu de nombreuses douleurs qui sont apparues, tellement que j'ai dû aller voir le médecin et le médecin m'a prescrit un traitement et fait faire toute une batterie d'examens. Il y a des situations dans la vie où nous pouvons nous sentir sans force. Je peux pas. Juste, je peux pas. Et même là, osons crier à Dieu. « Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. » Oh Dieu, reste, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon secours. Et je dirais même, parfois, on n'a même pas la force de crier. Et à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de force pour crier. Mais vous savez quoi ? J'avais des frères et sœurs qui étaient là pour crier pour moi. Merci Rémi d'avoir été à mes côtés pendant ce temps particulier. Tant de frères et sœurs sont venus me soutenir dans ce temps difficile. Ils ont crié à Dieu pour moi. Et aujourd'hui, je suis là, debout, restauré, remarié, avec de nouveaux enfants. Parce que vous avez crié pour moi à Dieu et Dieu a répondu. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais. Il est celui qui est à nos côtés dès le sein maternel. Il est celui qui nous accueille quand nous venons au monde. Il est celui qui nous donne, qui nous accompagne tout au long de la vie. Il est celui qui nous accueillera lorsque notre souffle expirera. Waouh! Waouh, il est là, il est là, il est là. Jésus le déclarera lui-même, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Waouh. Il en avait découvert des choses, David, quand même. On continue ? Alors là, c'est la partie un peu plus délicate, mais c'est l'avantage des prédications textuelles, c'est qu'on est obligé de partager ce que le texte partage. Là, on va parler de la justice de Dieu, qui en fait s'avère être notre salut. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus, ma bouche publiera quoi ? Ta justice, ton salut. Et les deux sont liés. Chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes, je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Il insiste, David. On a compris. Afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. On va s'arrêter sur ce verset un moment plus tard. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Mais qu'est-ce que David veut bien essayer de nous dire avec ce passage ? On était bien jusque-là, non ? Dieu me sauve, je peux toujours crier à lui avec insistance, car j'ai l'assurance en Christ d'avoir sa faveur, parce que Dieu a résolu de me sauver. Ensuite, on a vu que Dieu est toujours avec moi. Il est avec moi dès le ventre de ma mère et jusqu'à mon dernier jour. Il reste auprès de moi. Il ne m'abandonne jamais. Et dans le Nouveau Testament, on peut même lire qu'on devient même l'habitation de Dieu, c'est-à-dire le lieu où il vient résider, demeurer, rester. Et voilà que David se met à nous parler de quoi ? De la justice. Alors, verset 15, verset 16, verset 19, on voit la notion de justice qui apparaît verset 19, ça culmine. « Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. » Eh bien, je crois que si on veut arriver à la conclusion de David dans son psaume, je crois que nous devrions aussi attraper sa vision de la justice. Je crois qu'il est important de bien comprendre une chose. C'est que dans notre humanité aujourd'hui, telle que nous la connaissons, il existe un lien indestructible entre la justice de Dieu et l'humanité pécheresse. Je vais aller doucement parce que je veux que vous restiez avec moi. Dans notre humanité, après ce que la Bible appelle la chute, il existe un lien indestructible entre la justice de Dieu et l'humanité pécheresse, c'est-à-dire l'humanité qui commet le péché. Et ce lien, c'est la mort. Et par la mort, la Bible n'entend pas juste le fait de mourir, mais elle entend la douleur, le malheur, la destruction et bien sûr la mort elle-même. Avant d'aborder le verset 20 ensemble, je voudrais faire une remarque importante. C'est que David, dans ce paragraphe, il se rappelle d'abord une chose très très importante. C'est que Dieu est souverain sur toute chose. Et peut-être que c'est une des premières choses qu'on a tendance à oublier quand on traverse des difficultés. Dieu est souverain sur toute chose. Alors comment David parle de la souveraineté ? Eh bien, au verset 16, il rappelle sa puissance. « Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. » Verset 18, « Afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. » Verset 19, « Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi ?» David replace la souveraineté de Dieu au-dessus de tout ce qui se passe. Dieu contrôle, il n'a pas lâché. Et David n'oublie pas de le rappeler, et avec aussi insistance, comme on peut le voir. Dieu est fort et puissant. Il est le Tout-Puissant, la Bible nous dira. D'accord ? C'est un de ses noms. El Shaddai, le Dieu qui peut tout, Tout-Puissant. Et je crois que trop souvent aujourd'hui, notre christianisme occidental, parce que c'est très vrai en Occident, très peu ailleurs, questionne souvent cette souveraineté absolue de Dieu. Et alors nous conférons au diable un pouvoir, ou plutôt une autorité, qu'il n'a pas. Comme toutes les créatures, et nous en faisons partie, des créatures, Satan ne fait pas ce qu'il veut. Il est limité. Il est maintenu par la souveraineté de Dieu. Et je me demande si parfois, les pensées que l'on peut développer dans le christianisme, elles ne ressemblent pas à l'athéisme. Qu'est-ce que dit l'athéisme ? L'athéisme dit, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs sur la terre. Comment tu veux que je croie en Dieu ? T'as vu ? Il y a les guerres, il y a les maladies, il y a... Et parfois, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on n'est pas dans ce schéma-là de pensée ? En tout cas, ça peut nous perturber. Ça peut nous perturber. Et ce matin, j'ai envie de nous rappeler ce que dit la Bible. Parfois, ça ne nous fait pas plaisir ce que dit la Bible, mais elle le dit, parce qu'elle dit la vérité. Et concernant l'humanité, eh bien, la souffrance, la douleur, les difficultés de la vie, et même la mort, existent, car Dieu existe. Aïe. En fait, tout ça, ça existe, car Dieu existe. Pourquoi ? Parce que quand on ouvre le livre de la Genèse au chapitre 3, on y trouve quoi ? Eh bien, on y trouve que c'est Dieu qui a autorisé le diable à faire la guerre à l'humanité. Il a dit « Je mettrai inimitié entre toi et ta descendance ». On y trouve que c'est Dieu qui a dit à la femme « Tu enfanteras dans la douleur ». On y trouve que c'est Dieu qui a rendu le travail pénible en y mettant la ronce, la teigne qui bouffe tout, la rouille qui détruit tout. Et c'est Dieu qui a dit à l'homme, pécheur, tu mourras. La mort et ses conséquences sont un jugement de Dieu sur le péché. Et en tant que chrétien, on doit faire face à cela. Mes amis, c'est dur, mais c'est vrai. La mort et toutes ses conséquences, c'est un jugement de Dieu, premièrement, sur le péché. Elle rappelle au monde entier que la justice de Dieu ne négocie pas avec le péché. Tout ça nous rappelle que la justice de Dieu, il n'y a pas de négociation avec le péché. Le péché, c'est la mort. Je suis d'accord, ce n'est pas très vendeur. Mais la Bible, elle n'est pas là pour être vendeur. Elle est là pour nous dire la vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? J'avais cité une citation de C.S. Lewis qu'on a entendue pendant la pandémie. Tu peux la mettre ? Voilà. Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. C.S. Lewis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un grand écrivain et surtout un grand théologien qui a beaucoup pensé à la Bible et à ses implications et qui a écrit de vrais trésors. Je vous encourage à lire certaines choses de lui si vous avez l'occasion. De nos jours, la souffrance nous pousse parfois vers l'athéisme. Mais pour David, ça n'était pas le cas. Le malheur et la souffrance sont une preuve de la justice de Dieu. La sienne de justice, celle qui atteint le ciel. Pour David, quand un malheur arrive, c'est simplement la justice de Dieu qui s'accomplit, celle qui produit la mort de l'homme. Et c'est pourquoi il peut dire dans ce verset 20, « Tu tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Alors je vous rassure, Dieu ne veut pas notre malheur et notre détresse. Mais sa justice s'accomplit dans un monde pécheur. Dans la pensée du monde, l'homme est bon. Relisez Rousseau. Il mérite d'être sauvé. Mais ça, c'est la pensée du monde. Ce n'est pas la pensée des chrétiens. Dans la pensée du monde, les malheurs de la vie sont vécus comme des injustices. Ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Comment Dieu peut exister ? C'est totalement injuste. Combien de fois on l'entend ce cri résonner ? Et en même temps qu'on entend ce cri-là, eh bien, le monde accuse Dieu. C'est sa faute, même s'il n'existe pas. Et on sait très bien que le monde est plein de paradoxes. Il dit une chose et son contraire parce qu'il est perdu dans tout ça. Mais d'après David et l'ensemble de la Bible aussi, l'homme est mauvais et pécheur. Il est ennemi de Dieu. Il est rebelle. Il convoite. Il aime la médisance. Il est amoureux de l'argent. Il domine sur le faible. Il est hautain. Il se croit intelligent alors qu'il est dépourvu de sens. Et on pourrait continuer une très très longue liste sur la condition humaine. Et je crois qu'il est juste que l'homme pécheur subisse la mort et ses effets. Et en tant que chrétien, on devrait voir que c'est une preuve de justice divine quand l'homme souffre. L'homme souffre parce qu'il a péché et que Dieu a jugé le péché. Il existe ce lien indestructible entre l'humanité pécheresse et la justice de Dieu. Et ce lien, c'est la mort et la souffrance. Alors certains pourront peut-être objecter en disant « Mais pour les chrétiens, c'est différent. » Je dirais « Oui et non. » Oui, c'est différent, car nous connaissons ce qu'a accompli Jésus pour nous. Et nous sommes déjà, dès maintenant, au bénéfice de l'œuvre de Christ. Toutefois, ça n'est pas différent, car nous demeurons dans cette humanité pécheresse. On vit toujours sur terre, mes amis. Nous demeurons dans un monde où le jugement de Dieu, prononcé il y a 6000 ans, agit toujours. C'est ce que la Bible appelle le « pas encore ». C'est pour cela que même en étant sauvés, nos corps continuent de se dégrader, nous amenant lentement mais sûrement, parfois rapidement, vers la mort du corps. Et on ne devrait pas en avoir peur en tant que chrétien de cette mort-là. Elle n'est pas effrayante pour le chrétien. Et c'est pour cela que nous pouvons et que nous crions à Dieu pour que le déjà se manifeste. Seigneur, viens, secours-moi, délivre-moi de ce monde déchu. Nous crions pour que la grâce de Dieu nous accorde ses bienfaits et nous délivre des conséquences de la mort. Rappelons-nous le point 1 de David, Dieu a résolu de me sauver. Bon, j'espère que j'ai pas trop plombé votre dimanche. Mais c'est important de prendre ce que la Bible nous donne. Heureusement, David n'a pas arrêté son verset 20 ici, mais il a mis un « mais ». Un « mais ». Il y a plein de « mais » dans la Bible. Et il y en a qui sont géniaux. Celui-là, il est génial. « Mais », verset 20b, c'est-à-dire deuxième partie du verset 20. Tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Ce lien indestructible a finalement été détruit par celui qui peut faire l'impossible. El Shaddai, le Tout-Puissant. Jésus dira lui-même, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Jésus est le seul, par l'acte d'amour le plus grand que le cosmos ait connu, qui a pu réconcilier la justice de Dieu avec la grâce de Dieu. Il n'y a que Jésus qui a pu faire ça. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes de la plupart des autres religions. Parce que si Dieu est justice, il n'est pas miséricorde. Mais si Dieu est miséricorde, il n'est pas justice. Et ces deux vérités qui sont dans la Bible, qui sont irréconciliables, à moins que Dieu ne soit venu endosser la justice de Dieu pour faire miséricorde. Et là, on a la grande différence entre le christianisme et le reste des religions. Le poids d'un seul péché face à la sainteté de Dieu, c'est la mort éternelle. Éternelle. Le châtiment éternel. Joël nous a rappelé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, l'homme, dans sa condition de pécheur, ne peut voir Dieu et vivre. Et en mourant à la croix, notre Jésus a subi le châtiment de la justice de Dieu. Ce châtiment ne venait pas du diable. Je m'arrête parce que ce châtiment que Jésus a subi ne venait pas du diable. C'était le jugement éternel de Dieu. Moi, ça me fait trembler. Jésus a endossé le jugement éternel de Dieu. Et dès lors, la justice de Dieu a été accomplie. Elle a été accomplie, la justice de Dieu. Dieu n'a pas mis de côté sa justice. Il n'a pas dit « Oh, c'est pas grave ». Non, il est déversé sa justice sur Jésus. Et c'est ça qu'il a écrasé et qu'il a mené à la mort. Mais, et encore un mais, qui ressemble à celui de David, mais qui est encore plus fort. Mais comme Jésus est Dieu, la mort n'a pu le retenir. Dieu l'a ressuscité, acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de quoi ? Des liens, de ce lien indestructible entre l'humanité et la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà pourquoi David peut conclure avec ce « mais ».« Mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Comme Christ est ressuscité, nous aussi nous remonterons des abîmes de la terre et nous vivrons éternellement. » Amen. Amen. Paul le dira à sa manière aussi dans Romains 8, on peut l'afficher. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. La Bible ne nous cache pas ces choses-là. Elle ne nous dit pas, non, t'inquiète pas, va aller. Non, ton corps, il continue à être dans cette humanité pécheresse et il va aller à la mort, mais à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de quoi ? À cause de la justice de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. J'ai mis deux petites conclusions et j'ai fini. Première conclusion, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça résume la vie chrétienne. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et là on peut crier, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'humanité pécheresse, c'est-à-dire moi, ne mérite pas la vie, mais c'est par grâce que Dieu sauve. La mort et tous ses effets, douleur, peine, malheur, ne sont que justice, car l'homme est responsable de ses actes et de son péché. La consolation, la guérison, la bénédiction et le salut de Dieu ne sont que pure grâce accordée à ceux qui ne le méritaient pas. La bonne vision des choses, je crois, en restant humble bien sûr, quand je traverse une épreuve, je n'accuse pas mon Seigneur pour cela. Je ne lui en veux pas. Au contraire, j'insiste auprès de lui pour que sa grâce soit déversée et qu'il me délivre de l'épreuve. Conclusion 2, qui est la conclusion de David, c'est pourquoi je peux louer en toutes circonstances Dieu pour sa justice et son salut. Et David conclut son psaume avec « Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe sainte d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice. » Et l'Évangile ne fait que répéter ça. Chaque jour, je dois me rappeler pour ma propre vie et publier, proclamer la justice de Dieu, autrement dit, l'Évangile. Et c'est quoi ? L'Évangile de Jésus-Christ. Je mérite la mort. Ça, c'est la justice. Mais, par amour, mon bien-aimé m'offre la vie. Amen. Je mérite la mort, mais par amour, mon bien-aimé m'offre la vie. Je voudrais vous inviter à vous lever, on va prier et on terminera avec un chant, si l'équipe de louange veut bien. Et, oui. Et souvent, même moi, je ne parle souvent pour croyant, aujourd'hui j'ai vu de bien de plus en plus, mais j'ai l'impression que mon passé, plus j'essaie de me rapprocher de Dieu, plus comme si le loup voulait me récupérer, me disait je ne te permettrai pas justement d'aller juste là où tu veux. Et je trouve que ce qui est le plus dur, c'est que quand on a été mort physiquement, pas mort comme ça, c'est plus on essaie de se rapprocher de Dieu, plus on dirait que notre passé de prêcheur, de mal-être qu'on a eu, nous attire comme un aimant qui ne voudrait pas qu'on se rapproche. Moi, ce que j'ai eu On en parle à la fin si tu veux, et mais tu as bien fait, tu as bien fait. Merci Seigneur d'avoir. Comment tu t'appelles? Eric. Merci d'avoir sauvé Eric, Seigneur. Merci parce que waouh, tu es celui qui vient nous chercher, Seigneur, dans les profondeurs de là où on peut se trouver, Seigneur. Comme tu nous l'as dit ce matin, c'est toi qui nous place dans le ventre de notre mère. C'est toi qui nous accueille, Seigneur, au moment de la venue au monde. C'est toi qui nous réceptionne dans ce monde, Seigneur. C'est par ta volonté que nous venons à la vie. Et Seigneur, merci parce que tu veilles et tu nous gardes, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais. Ton regard bienveillant, ta décision ferme de venir nous sauver, tu l'accomplis, Seigneur. Et nous t'appartenons. Nous devenons tes enfants. Nous devenons à toi. Seigneur, notre prière ce matin, Seigneur, c'est que l'épreuve puisse produire la patience. La patience, la persévérance. La persévérance, la foi, Seigneur. C'est que l'épreuve, Seigneur, ne nous éloigne pas, Seigneur, de ta face. L'épreuve ne nous conduise pas dans le doute, Seigneur, mais dans la foi. Dans la foi en celui qui peut tout, celui qui peut me délivrer de la main de l'homme violent, celui qui peut me délivrer du filet de l'oiseleur, celui qui peut me délivrer, me secourir de mes maladies, des malheurs que je peux rencontrer sur mon chemin. Seigneur, ce matin, on veut encore plus choisir de placer notre confiance en toi. Parce que tu es ce Dieu qui a tout dans tes mains. Tout est dans tes mains. Et même si on ne comprend pas toujours ce par quoi on traverse, ce par quoi on passe, on place notre confiance en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. En ta grâce, en ton amour. Saint-Esprit, Seigneur, tu as donné ton Saint-Esprit pour nous. Merci, merci de faire ton œuvre. Merci, Saint-Esprit, de faire ton œuvre en nous, Seigneur. De nous rappeler chaque jour qu'on peut venir auprès du Père, qu'on peut venir implorer sa grâce, son pardon, son amour, son secours. C'est notre rocher, notre forteresse, notre asile, celui en qui on se confie. Loué sois-tu, mon Dieu. Loué sois-tu. Je vous invite à prendre un chant que David a composé.